France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ce fut en 1997 que Dario Fo obtint le prix Nobel de littérature. Dario Fo, l'écrivain, le metteur en scène, le comédien, le dramaturge italien. 7 ans plus tôt, Gérard-Henri Durand, avec la collaboration de Véronique Hott, suivait Dario Fo, lui-même invité par la Comédie française à mettre en scène Molière. Alors, la mise en scène et avant cela les dessins de Dario Fo, sincérité et rigueur. Christian Blanc, Marcel Bozonnet, Loïc Brabant, Catherine Yégel, Claude Lochy, Céline Samy participaient également à cette émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin 1990.
La caverne grande me son butato. Salvo! Salvo! Non morirò negato. Morirò marcito. Vardo dentro in sta caverna scura. Che scuro, mi sono abituato un po' al scuro, ho guardato, ho visto delle ossa, grandi, una carcassa di una bestia tutta magnata di fresco. Ma chi è che bagna in sta maniera qui dentro? Ma che bestia lei! Speriamo che l'abbia fatto trasloco con tutta la famiglia. E speriamo che con tutta quest'acqua e il fiume così annegata. Mi sentivo battere il didon, pom, pom, pom. Ne son buttato di tanto moro, anche se torna sta bestia e mi trova morto. Ma guardi, dentro della piova che viene in giocra, un'ombra, una crapa tanta, un crapun con due orecchie inguiside, due ogion che pareva lanterne, una tigra, che tigra! Ma che aveva in bocca un tigrotto annegato, con una pancia gonfia che pareva una luganega pompata. Tutta d'acqua, morto, buita per terra, schiscia col shampoo, wack, vien fuori l'acqua morto. Che era un altro tigrotto, anche lui pien d'acqua, ma vivo, che strascicava la pancia per terra. La tigra la si ferma, la usma. Boia, se che piace la roba frullata, son fottù!
La Commedia del Dario Fo. Nous étions descendus au départ dans l'antre du Tigre. C'était un enregistrement fait à Florence de la voix de Dario Fo racontant son histoire de tigre.
Labbro cari sì, io notte giorno vegno ca.
Sotto e sotto, papà su, ne vuoi stasera in gioco un bollo?
Leggia mia che stello mondo, sei davvero mio papà.
Nous avons intitulé cette émission La Commedia del Dario Fo, Véronique Hott. C'est un parcours que celui de Dario Fo. Il ne faut pas tout de même se tromper, parce que comédia, ça nous indiquerait peut-être comédia dell'arte uniquement, ce que Dario Fo n'est pas. Mais nous allons essayer de le découvrir ensemble. Dario Fo, on le connaît au fond depuis longtemps, c'est un homme de théâtre italien, bien sûr, mais qui est aussi un homme qui est monté sur les planches lui-même et qui a beaucoup écrit.
Oui, c'est un acteur, un auteur et un animateur de la Comune e du Soccorso Rosso. Cela dit en italien, bien sûr. Il a beaucoup écrit de textes en référence aux événements d'actualité, beaucoup d'écriture et de pièces donc qui disent l'autonomie et le caractère unitaire de l'action culturelle comme condition d'action politique, comme s'il faisait du théâtre pour parler politique ou comme s'il faisait de la politique pour parler théâtre. Les deux sont inextricablement liés.
Donc, et en même temps, ce n'est pas un théâtre dramatique au sens propre du terme parce que souvent le rire s'y mêle.
Bien sûr. Et si l'on se reporte au passé de Dario Fo, on peut dire qu'il a créé beaucoup d'espaces nouveaux, gérés notamment par la classe ouvrière, par les fameux ouvriers communistes italiens.
Donc, c'est bien qu'on a cru parfois que c'était vraiment un militant.
Absolument, il a écrit des récits théoriques, des poèmes, des farces militantes. Il s'est engagé vraiment dans le théâtre par le langage oral qui s'est fait langage écrit. Et la tradition s'est chargée d'actualité. Le passé confronté au présent le plus immédiat toujours. Et c'est pourquoi Bernard Dorte a pu appeler son théâtre le théâtre tripalaire.
Alors ce qui est amusant aujourd'hui, c'est finalement de voir Dario Fo qui, à l'initiative d'Antoine Vitesse, avait été invité à la Comédie Française à venir monter du Molière. Et ce qui nous a séduit, c'est cette rencontre entre ce Molière, le Molière des débuts, et ce Dario Fo d'aujourd'hui qui, lui, d'un certain côté, pourrait ressembler un tout petit peu à Molière.
Absolument, puisqu'il a voulu réintroduire la jeunesse donc, de cette écriture, la spontanéité, le naturel, et il a donc donné la prééminence au gestuel, au mouvement, au volume sur la scène, et il a laissé de côté, pour une fois, la parole, le verbe. Cependant, ce sera la place donnée, bien sûr, au lazzi, au gag du corps, au gag même de la langue, mais ceci de façon très spontanée, très légère et très vive.
Je crois que lazzi, c'est un mot qui mériterait presque une explication. Il y a aussi ce mot de Zanni, parce que finalement, le personnage principal, le Scannarelle dont nous parlerons, c'est tout de même un Zanni aussi, c'est-à-dire un de ces brigands du peuple, si je puis dire, de ces gens rusés, de ces gens qui savent faire des choses et qui se défendent dans un univers très hostile.
Oui, il s'agit donc de deux pièces, le médecin volant et le médecin malgré lui. Ce sont deux médecins revus par la tradition moliéresque. Et là, on embrasse l'origine et la fin de la saga de Sganarelle. C'est la première et la dernière fois que l'on rencontrera Sganarelle dans le théâtre de Molière. L'on mesure également le chemin parcouru pour retrouver les traditions de la farce, c'est-à-dire battre sa femme, tromper les faibles. Mais cela se fait toujours dans la bonne humeur, dans la gaieté, et on dépasse la souffrance humaine. Et toujours cela pour faire rire, bien sûr, les honnêtes gens.
Je crois que ce qu'il faut dire aussi, avant de laisser la place à tous nos acteurs, c'est de dire que nous avons rencontré d'une part Dario Fo et les acteurs dans le sein même de la Comédie Française, et les acteurs en particulier dans le foyer des artistes en pleine représentation. Nous les prenions grimés, habillés, alors qu'ils attendaient leur entrée en scène, si bien que parfois ils ont eu un peu de mal à nous répondre.
Oui, il s'agit bien sûr de Catherine Yégel, de Richard Fontana, de Marcel Bozonnet, de Claude Lochy, de Loïc Brabant, de Christian Blanc, d'Isabelle Gardien et de Céline Samy.
Racontiez l'histoire du tigre, vous rugissiez. Est-ce que vous rugissez encore?
C'est pas le cas, mais certaines fois, j'arrive à émettre une voix puissante pendant certaines répliques. C'est-à-dire, pas répliques, lorsqu'on fait la mise en place de spectacle, et dans la répétition, il y a quelqu'un qui est un peu endormi, qui va à rêver en dehors de spectacle. Alors, je deviens un peu dur, mais c'est en rigolant. C'est-à-dire,
mais c'était un rugissement politique à l'époque. Il y avait un contexte, ah oui. Il y avait une...
Évidemment, oui. Et aujourd'hui, c'est encore politique aussi, la politique de faire dans une certaine façon le théâtre. La question de jeu qu'il y a dedans, de la tigresse, j'avais inventé une expression, il retourne presque toujours dans la façon de faire le spectacle. C'est-à-dire la prise de conscience, une certaine rigueur, chercher d'avoir courage dans les choses, avoir une dignité, etc., etc.
En 1974, à Gémier, vous jouiez donc Mystère Bouffe. Et c'était déjà là encore quelque chose d'assez original. C'était vous qui étiez seul en scène et qui accomplissiez donc l'événement théâtral. Et vous mêliez déjà le présent, le passé et presque l'avenir dans les formes théâtrales comme dans les formes politiques aussi.
Oui, c'était un choix oui, politique et moral, comme on dit. Mais la question de prendre position sur certaines dimensions, de certaines situations de la vie, de notre rapport avec l'agent, avec le pouvoir, la question, par exemple, de parler de la dignité de l'homme et de l'autre côté, de la lutte contre l'hypocrisie, contre l'injustice, contre la violence, etc. C'est un tormentone, nous disons en italien, c'est-à-dire quelque chose qui retourne toujours dans le travail que je cherche à faire. Et aussi ici, du moment que j'ai terminé la mise en place, la mise en scène de Le Médecin, malgré lui, Le Médecin Boulin, j'ai insisté beaucoup sur ce thème, qui sont à la base, après, de travail, de discours philosophique, moral de Molière.
Oui, quelles que soient les époques, quelles que soient les différences de temps ou de géographie, c'est toujours donc les mêmes thèmes qui reviennent. Il faut lutter contre ce qui est là déjà et vous êtes insatisfait pour ce qui est donc de la société. Disons cela de façon générale.
Oui, il faut dire que dans Molière, il y a toutes ces choses, cet élément-là. Et il faut le découvrir. Évidemment, il y a des autres auteurs qui s'en fichent de retrouver, de souligner, de amener au niveau théâtral, surtout de compréhension, les éléments fondamentaux d'un discours philosophique et moral de Molière. Ils font n'importe quoi, ils font de climat, de l'atmosphère, un théâtre de sentiments mystérieux.
Parfois tendance à tramer une légende autour de vous, peut-être à dire des choses bien fausses. Est-ce que vous avez commencé un peu comme Molière, un peu sur les chemins?
Non, j'ai commencé par hasard. J'étais architecte, presque architecte. J'étais peintre. J'étais étudiant à l'Académie de Belles-Arts, une prestigieuse académie italienne où ils sont sortis les plus grands peintres de l'histoire du 17e siècle, va venir un autre jour. Et je ne pensais pas de faire l'acteur, le comédien. Mais toujours, j'ai joué dans de petits spectacles où je faisais les blagues. Je faisais surtout des contes qui sont liés à la tradition de mon pays. Moi, je suis dans un pays où les conteurs étaient, dans ce temps-là, très nombreux et très importants.
Il faut dire. Quel pays?
Le pays s'appelle Porto Valtravaglia, c'est sur le lac Majeur. Dans ce pays et dans des pays qui sont proches à lui, ils sont nés plusieurs écrivains et des gens de théâtre, beaucoup de gens de théâtre. Et je crois que c'est à cause de cette tradition de conteurs qui vient de loin, de le Moyen Âge. Alors que c'était naturel pour moi de faire les contes. Tout le monde là, il fait les contes. Et dans une abstraction, une folie, une grotesque, et toujours avec un sens moral très profond. Alors quand je commençais pour jouer, comme ça, comme pour s'amuser, pour faire des blagues avec des camarades, et je suis arrivé au théâtre. Et j'étais déjà à la fin, sans me rendre compte, quelqu'un qui avait de connaissances, qui avait le sens de rythme, le sens de la gestualité, le sens du placement et de la vocalité liée au rythme et à la gestualité même.
Vous aviez retrouvé donc les sources du théâtre populaire.
Je suis né avec ça. Et après, je commençais à faire la recherche. Je suis allé à voir où il venait, ce que j'étais en train naturellement de raconter, de faire. Et j'ai découvert qu'il y avait une histoire, une importance énorme dans les choses que je faisais, qu'il y avait des auteurs arrière de toute l'Europe, pas seulement de l'Italie, et qui avaient écrit et qui avaient développé le discours. Je trouvais Rabelais, je trouvais Voltaire, je trouvais les grands conteurs du Moyen-Âge italien, Dante Alighieri, Boccaccio, etc.
Dario Fo, vous avez écrit nombre de comédies comme Isabelle, Trois caravanes et Un charlatan. C'est toujours la faute du diable ou il faut la balancer cette dame. Vous avez donc écrit beaucoup de textes.
J'écris presque 45, 50 pièces déjà. Je fais la mise en scène. Et j'ai appris à écrire sur le plateau. J'ai appris à parler vraiment théâtralement, disons, sur le plateau, à se me promener sur, tout directement sur le plateau. Je n'ai eu pas d'école. Ma grande école, c'était vraiment le plateau.
Le plateau et puis le dessin, donc, puisque vous parlez beaucoup de gestes, de mouvements, de gestualité, vous reproduisez ça sur le papier et cela aide beaucoup les comédiens. Vous êtes donc un artiste peintre, un metteur en scène, un écrivain, vous accomplissez tous les arts.
Je peux dire que je suis un homme de la Renaissance. j'ai continué la tradition italienne sans me rendre compte de la totalité de travail artistique. Et je dois dire que la scène, il accumule, il prend tout ce discours et cette expression. Lorsque je pense au théâtre, je pars de la dessin. Lorsque je dessine, je viens à de la conte, du théâtre, etc. C'est une espèce de cercle qui va se rapprocher toujours.
Allora c'era la possibilità di raccontare questa storia. Io vedevo un entusiasmo, uno sghignazzo, un piacere da parte di questa gente, di queste contadine, donne, uomini, bambini, incredibile. Devo dire che a sollecitare anche me un enorme piacere era il fatto, per la prima volta, di sentir parlare in un dialetto, che è un dialetto di una minoranza, 60 milioni di abitanti parlano questo dialetto, che in Cina è davvero una minoranza perché la lingua ufficiale è di mezzo miliardo, parlata da mezzo miliardo di persone. È una lingua soprattutto che non aveva quelle cadenze un po' acute e soprattutto quasi sincopate della lingua ufficiale, non c'erano i suoni. No, se mi sembrava a un certo punto di sentir parlare bergamasco, bresciano, mi sono sentito quasi a casa. Per tradurre c'è stata difficoltà perché il traduttore ufficiale non conosceva il dialetto, ci è voluto un altro traduttore che conoscesse la lingua e il dialetto. E finalmente si è capita la storia. E ve la racconto in cinese.
Toujours la voix de Dario Fo dans son accent inimitable, plutôt son rythme italien. Et naturellement, nous parlons aussi de dialecte et de langue. Vous l'avez donc entendu. Continuons. Il faut tout de même revoir aussi ces indignations qui apparaissent dans vos pièces parfois. Car quand je me souviens de la mort d'un anarchiste, ou dans une autre pièce, on sacrifiait un mouton, ou plus exactement, vous demandiez au public, faut-il ou non tuer ce mouton, ce qui devenait une forme de théâtre direct extrêmement précise. Et vous aviez là, vous aviez dans le théâtre, une forme d'adresse directe au public à leur réflexion, et qui n'était pas brechtienne.
Non, pas du tout. Il faut dire que je n'ai pas de préjudice. Et je dis toujours à mes élèves, quand je fais l'école de théâtre, première règle dans le théâtre, n'avoir pas de règles. Ça veut dire pas qu'il ne faut pas discipline. Ça veut dire pas qu'il faut pas avoir une rigueur. Mais il faut pas avoir des préconcepts et surtout se placer devant le théâtre avec des limites, des carrés qui sont dedans un carré, de cercles, c'est-à-dire des frontières. Le théâtre a la possibilité de s'expliquer, de éclater dans une direction les plus différentes. Je crois que l'expression plus libre à la fin de toutes les arts est le théâtre. Du moment qui prend la parole, la littérature, la couleur, la lumière, l'espace, le volume, la musique, le chant, la gestualité, les objets. Et alors tout ça permet vraiment d'être ouvert. Je commence jamais avec une idée fixe. Je cherche toujours d'être libre.
Et justement, si on revient à Mister Bouffe, donc l'un de nos théoriciens français du théâtre, comme Bernard Hort, avait remarqué que vous mêliez toutes les différences dans vos spectacles, que ce soit par exemple les problèmes de l'Italie du Nord ou ceux du Sud, que ce soit la langue italienne ou les dialectes, que ce soit la notion de fête ou la notion de travail. Vous travaillez à faire rejoindre toutes les antithèses.
Mais c'est pas seulement lié à l'Italie, vous savez, un de pièces le plus important de cette dernière année, c'était par exemple une pièce d'origine française, ça s'appelle le petit rat. Et c'est le personnage principal, c'est le sexe féminin. C'est une le petit rat, c'est le sexe féminin.
Aussi les bijoux indiscrets, n'est-ce pas?
Oui.
Dans la littérature française.
Mais c'est pas connu pas du tout, cette pièce. Il fait part de Fabliau de la France de l'Est dans le 3e siècle, 13e siècle. C'était incroyable, une idée paradoxale et plein de poésie, de joie, d'amour. Hein. Et je l'ai retrouvé grâce à la recherche que j'ai faite.
Le temps vous importe peu, si ce n'est que le temps est un parcours à découvrir, le passé, le présent, l'avenir, comme donc tout ce qui est géographique. Les lieux vous indiffèrent aussi, vous vous retrouvez donc bien partout.
Quand vous étiez dans la Chine.
Bien sûr. Quand vous étiez venu en 74 encore en France, vous aviez été très bien accueilli à la cartoucherie de Vincennes. C'est vrai que cela rentrait tout à fait dans votre travail à vous, que d'être reçu par Ariane Nouchkin, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes reçu donc au Théâtre français, à la Comédie française. Comment vivez-vous cette institution, justement?
Mais moi, je n'ai pas de préconcepts, je le dis avant, et je cherche de voir l'espace et surtout ce qu'il me donne. Quel est l'espace qu'il me donne pour travailler? Et j'ai retrouvé, par exemple, d'espaces extraordinaires dans des structures qui sont soi-disant bloqués dans l'histoire, qui sont rigoureux, qui sont certaines fois à l'apparence conservatrice, c'est juste. Et je n'ai pas peur d'entrer, comme disait Mao, dans la caverne de la tigresse. Il disait, pour comprendre ce que c'est la tigresse, il faut entrer dans la caverne de la tigresse. Et moi, je rentre tranquillement. Je travaillais aussi par la Scala. Je travaillais pour le théâtre d'Amsterdam. Je suis allé en Amérique à jouer pas seulement à travailler. J'ai fait la mise en scène dans le Repertory Theater de Boston. Et je n'ai pas de problème à voir. Comme on dit en Italie, non mi avvolgo nel mantello della purezza. C'est-à-dire, je ne me couvre pas dedans le manteau de la pureté.
un petit tour dans le foyer des artistes, nous allons rencontrer tout d'abord Claude Lauchy, longtemps compagnon de Planchon, mais qui aujourd'hui joue sous la baguette du maestro, deux rôles très traditionnels finalement, Gros René d'un côté, Pantalon de l'autre, un vrai rôle de la Commedia dell'arte.
L'enthousiasme que nous avons tous ressenti, les camarades qui ne connaissaient pas Dario et les autres ont été immédiatement éblouis par son travail, vraiment. C'est-à-dire qu'il est totalement inventif, il est totalement poétique, il a le sens du burlesque, du cirque, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire avec quelque chose de dépassé. Il dépasse totalement le geste. C'est quelque chose qui nous a immédiatement éblouis. C'est-à-dire que ce monsieur rend une chaleur au théâtre, une invention au théâtre, une poésie au théâtre. Quelque chose de, à la fois, ça peut paraître matraquant comme Guignol, mais c'est aussi un Linon du XVIIIe siècle. C'est quelque chose de formidable.
Et retrouver la farce, c'était quelque chose aussi qui vous plaisait beaucoup.
Dario disait encore avant-hier, attention aux camarades et à tout le monde, aux comédiens, attention, sincérité et rigueur. C'est-à-dire qu'il faut être très discipliné et très sincère. On n'a pas le droit d'être artificiel et de déborder. Et autrement, les gags ou le comique disparaît. C'est ce que Charles Chaplin disait aussi. C'est-à-dire la rigueur et la sincérité. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve avec Monsieur Dario Fo d'une intensité extraordinaire. Là, vous voyez, il est peintre. Il a, voilà, son théâtre. Il m'a envoyé ça, ce tableau là hier. Et c'est généreux, gai, et en même temps, évidemment, ça attire. C'est métaphysique. Ça, on parle de la mort, ça y est, incontestablement, on parle de la mort, mais avec une espèce de rire, de joie d'exister. Et puis, il est acteur, il adore les acteurs, et il nous a donné une tendresse formidable que, j'espère, nous lui avons... on lui en a fait retour, j'espère, en tout cas.
En même temps, il y a un problème de tempo, hein. Il faut trouver exactement son rythme.
Oui. Oui, et c'est quelque chose qui a été difficile dans cette maison, parce que il est vrai que les classiques sont traités d'une façon avec un peu plus de sagesse ou de choses comme ça. Là, il a bousculé tout ça et il a fait un timing très particulier. C'est la Commedia dell'arte, comme dont il est peut-être le dernier. Il en possède tous les tenants et tous les aboutissants, il en possède toutes les ficelles et toute la poésie. Et il nous a demandé des choses que nous n'étions pas habitués à faire, c'est vrai, sur le plan du timing. Il faut bousculer. Bon, bien entendu que les deux farces de Molière n'utilisent pas la psychologie à fond, mais les acteurs ont toujours tendance à vouloir en faire. Et là, il a matraqué tout ça, c'est formidable.
Finalement un rôle pour vous.
Oui, sans doute, mais c'est aussi important ce que je pense de réaliser maintenant. Il faut faire attention de ne pas bloquer quelqu'un dans une époque ou un temps. C'est très dangereux. Par exemple, je suis en train de... J'ai terminé quelques mois avant de placer sur le plateau un spectacle qui s'appelle Le Pape et la Sorcière. Il parle de la drogue, il parle de l'attitude du pouvoir vis-à-vis à ce problème, il parle de la mafia. C'est un spectacle qui a eu un énorme succès en Italie et surtout qui a déterminé un certain prix de position aussi culturel vis-à-vis à quelqu'un.
C'est vrai, Dario Fo, que l'on ne peut pas toujours parler des ouvriers communistes italiens, par exemple, et qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les problèmes de la mafia, les problèmes de la drogue qui viennent en ligne de compte, qui sont les problèmes dont on parle. Vous êtes toujours présent quand il s'agit donc de mêler le théâtre ou le texte de théâtre avec les événements d'actualité.
Je crois que le théâtre, pour moi, enfin, mais dans toutes les époques, le théâtre était quelque chose qui est lié complètement à la vie, à l'économie et à l'histoire d'un pays. On ne peut pas penser un théâtre qui s'en va comme ça dans le ciel, dans les rêves abstraits. Le théâtre, c'est quelque chose qui a un départ concret toujours. Après, on peut bien partir à travers sur le grotesque, sur l'impossible, sur l'irrationnel, mais le départ et enfin la morale, c'est lié au temps et à la vie quotidienne. La chronaca, disons. Et c'est impossible de penser à une expression si vivante, si importante comme le théâtre, complètement abstrait, c'est-à-dire enlevé de problèmes de la vie quotidienne. Lorsque j'ai fait la mise en scène de Molière, j'étais toujours pris du penser du temps que je suis en train de vivre. Alors que le rythme que j'ai donné à la comédie française, le spectacle, le rapporte la soulignature de certains passages, le jeu, par exemple, ironique, satirique, qu'il y a dedans à Molière vis-à-vis l'hypocrisie de langage, le terrorisme de la parole. Tout ça sont choses qui sont liées à notre temps aussi. Et alors là, j'ai poussé plus fort pour mettre un primo piano, un premier plan, tout ce qui vient passer.
Nigel, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être aussi bousculé sur la scène du français.
Non, à ce point-là, non. C'est la première fois.
Vous démarrez par un numéro de femme battue. Heureusement, un moment, on se substitue à vous. Il y a un mannequin qui se substitue.
Oui.
Mais vous descendez quand même d'une loge du français.
Oui, mais bien soutenu par un camarade, heureusement. Oui, ça ressemble beaucoup à de l'acrobatie, mais c'est l'acrobatie comme ça, imaginaire, magique, belle. Je veux dire, on n'est pas dans le sordide de la femme battue.
Par ailleurs, c'était la première fois que vous travaillez avec Dario Fo.
Oui, comme pour nous tous, je crois, ici. C'est la première fois que Dario Fo vient faire une mise en scène à la Comédie Française. Et j'espère que ce sera le début d'un long échange entre Dario Fo et nous.
Comment vous avez ressenti ce travail? Est-ce que c'est quelque chose qui vous changeait de ce que vous aviez l'habitude de faire sur Molière? Ou, au contraire, c'était finalement pour vous dans la tradition?
Ah, le fameux mot lâché. Non, on l'a tous ressentis, je crois, d'une façon première, nouvelle. On ne peut pas se dire qu'on est dans le droit fil de ce que nous faisions, de ce que nous ferons sur Molière. Parce que justement, la grande richesse de Dario Fo, c'est d'avoir su continuer à faire vivre la tradition.
La vraie tradition, celle du départ, tout au moins, du Molière très jeune.
Oui, mais cette tradition, c'est quelque chose qui s'entretient, et qui s'entretient justement en n'ayant pas peur de la secouer. Et je crois que c'est une école qui s'est un petit peu perdue en France. Maintenant, la tradition, pour nous, ça veut beaucoup dire quelque chose qui est figé et auquel on n'ose plus toucher. C'est presque un peu comme les tableaux qu'il y a dans la salle du foyer des artistes. Je veux dire, la tradition, c'est un mot que je trouve dangereux. Et je trouve que aimer la tradition comme le fait Dario Fo, ça veut dire être capable de secouer l'image et de voir ce qu'il en reste et de retrouver des lazzi et de retrouver des gags. C'est ça la tradition.
Oui, c'est-à-dire retrouver l'invention qui caractérise la jeunesse. Or, c'est peut-être ça qu'on a l'occasion, on a l'impression parfois qu'il est un peu perdu, c'est cette jeunesse de Molière. Là, au contraire, on la retrouve complètement.
Mais bien sûr, parce que Molière, dans ses farces, mêlait aussi l'improvisation. Quand vous lisez une farce de Molière, vous voyez souvent à la fin d'une réplique, etc. Alors nous, acteurs français, on dit bêtement « Bonjour monsieur, vous allez bien, etc. » Or, Dario nous a appris que tous ces etc. Remplacent, sont là pour un lazzi, pour une improvisation, pour un gag. Et il a fait des recherches sur les gags pratiqués et chez les Français, les acteurs français et les acteurs italiens qui étaient à Paris à ce moment-là, pour retrouver ces gags qui sont ou visuels ou avec du texte. Mais il y en a plein, si vous regardez bien les farces de Molière, les etc., il y en a beaucoup. Mais nous, comme des imbéciles, on fait toujours etc. Mais là, je crois que ça a été complètement revécu, redécouvert.
C'est un etc., si je peux dire, du corps. De toute façon, c'est un théâtre extraordinairement physique qu'on vous demande là, cette fois-ci.
Oui, mais je crois qu'il est écrit pour ça. C'est pas, on n'est pas dans le misanthrope, on n'est pas dans le malade imaginaire, même si on doit penser au médecin. On est dans des farces et les farces obligatoirement amènent des images visuelles. Je veux dire, pas seulement. Si vous pensez au médecin volant, le médecin volant c'est un canevas. Le médecin malgré lui est beaucoup plus construit, mais le médecin volant c'est un canevas complet. Et si à l'intérieur de ça vous n'y mêlez pas des images aussi belles, aussi violentes, aussi poétiques que Dario l'a fait, bon, franchement, vous lisez le médecin volant chez vous, vous n'allez pas me dire que vous allez hurler de rire, c'est pas vrai. Ce qui fait rire, c'est l'image, c'est la construction poétique autour, et même folle et parfois complètement surréaliste, que Dario a amené dans son travail. Moi, je dis ça, j'ai jamais vu si bien monter des farces de Molière.
Ceci dit, il a aussi une caractéristique commune avec Molière, c'est que tout de même le rire est aussi un rire qui apprend quelque chose au spectateur.
Mais je crois qu'on peut pas être Dario Fo sans justement avoir cette richesse intérieure. On peut pas être un être aussi comique qu'il est si on n'est pas aussi dense à l'intérieur. C'est pas possible. Comme on imagine que Molière était un homme qui avait vécu, souffert, aimé, et c'est aussi pourquoi il écrivait des comédies.
Le théâtre aussi, vous dites qu'il faut qu'il agisse, ce théâtre. Mais cette action, elle se relie aussi à ce conteur dont vous nous parliez précédemment. Il faut des retournements constants. Il faut des mouvements et une inventivité de la fable sans arrêt.
Mais il y a un grand psychologue italien qui disait « Nous sommes ce que nous étions dans les premières 10 années de la vie ». Et je peux dire que j'ai commencé ad apprendre le théâtre lorsque j'étais vraiment un enfant, les contes que je dis avant, apprendre certains rythmes, certaines façons de m'exprimer. Et à la fin, je découvre que je suis en train de développer toujours ce discours lorsque j'étais enfant. Je suis dans dans le rapport avec ma naissance, dans une façon perpétuelle. Il vient toujours la mémoire des éléments, par exemple, de l'émotion, de la question, par exemple, que j'aime énormément le vol. C'est-à-dire le théâtre pas fait aussi avec la parole, hein. C'est pas aussi c'est si je suis seul, tout seul sur le théâtre. Il y a toujours le vol. Et je me rends compte que j'ai écrit, par exemple, plusieurs histoires. Par exemple, une de pièces que j'aime le plus, c'est Icaro, Dédalo Icaro.
Dédalo Icaro.
Si, j'ai fait ça plusieurs fois. Et l'histoire aussi certaines luttes, batailles, le jeu paradoxal de la transformation des personnages. Une autre chose que j'ai retrouvée dans l'estimento, c'est-à-dire la mise en place de Molière, c'est la métamorphose. Le jeu de la métamorphose, c'est lié à l'enfance, à l'histoire de l'enfance. Et c'était pour moi un découvert incroyable. Molière, il est plein de métamorphoses. Ces métamorphoses, par exemple, de le médecin qui devient, Sganarelle qui devient médecin, et qui va vraiment se livrer complètement, se transformer dans une façon vraiment absurde dans un personnage, et il oublie complètement. À la fin, tu ne te rappelles plus de Sganarelle comme tu l'as vu à la naissance, lorsqu'il était sur le plateau, non? À la fin, c'est vraiment le médecin, le maximum de la régalité. Il vole, il s'en va dans le ciel. Ça, sont les choses qui retournent.
Alors, Loïc Brabant et Céline Samy, vous êtes donc les jeunes donc, de ces deux farces de Molière que monte Dario Fo. On rit beaucoup sur la scène et vous riez de même, surtout vous, la nourrice.
C'est lui qui a plus ou moins fait la mise en scène de manière à ce qu'on me tripote dans tous les sens. Mais c'est très agréable, j'avoue. Que...
Et puis Céline est très appétissante.
Ça, c'est Valère qui parle ou Léandre, c'est le jeune prétendant. Isabelle Gardien, vous jouez Lucile et Lucinde dans les deux farces, donc Monde Dario Fo, deux farces de Molière. C'est donc la jeune fille que vous jouez, mais une jeune fille un petit peu rusée.
Oui, elle est rusée, mais la ruse vient de ce qu'elle est très malheureuse. Alors elle trouve toutes les forces qu'elle a en elle pour se débattre contre son père et contre son autorité. D'où les ruses. Alors dans Le médecin volant, elle se bat toute seule. Et dans Le médecin malgré lui, elle se bat toute seule. Et dans Le médecin volant, elle est avec tous ses amis... sa cousine Sabine et puis tous les jeunes de la maison.
C'est difficile de garder ce personnage de jeune fille à l'intérieur d'une farce ?
Oui, la partition est écrite comme ça, mais en même temps, c'est pas forcément une jeune fille toute fragile. Elle a plein de ruses, donc comme on l'a dit au début, et je crois que Molière l'a voulu comme ça. Et puis elle a une partition quelquefois tragique quand elle se débat contre son père. Mais je trouve que ça s'inclut complètement dans la farce et c'est ça qui donne du relief à la farce.
Selon Bernard Dort, encore, vous mêlez les fables du présent et les formes plébéiennes du passé, de même que l'utopie de l'avenir dans tous vos arts. Il s'agit toujours d'un va-et-vient entre le passé, le présent et l'avenir. Mais vous avez commencé avec la varietà, c'est-à-dire là où Anna Magnani elle-même avait commencé.
Mais je crois que dans l'époque où j'avais commencé à faire le théâtre, presque tous les comédiens passaient de là, en Italie. C'est-à-dire, il y avait des comédiens qui entraient dans le théâtre à travers l'académie, etc. Mais à la fin, tout, ils retournaient dans le passage de la variété. C'était un peu le grand ventre de la naissance du théâtre, la grand-mère du théâtre, la grande madre, non pas la mère grand qui permettait la naissance des gens de théâtre. Ma femme, elle vient de plus loin encore. Elle est fille de la balle. Elle vient d'un théâtre très, très populaire et très noble aussi.
C'est Francis Caram.
Frank Caram, c'est le même. C'est, le même. C'est vrai qu'elle s'appelle aussi Francesca. Et toute la tradition du théâtre de Moyen-Âge, du baroque, de la Renaissance, est entrée dans le théâtre, soi-disant, la riviste, on dit nous, non, le variété. Petrolini, le grand acteur, Totò, Macario, toutes les comiques, et aussi des grands acteurs qui sont acteurs aujourd'hui du théâtre classique. Ils viennent de là. C'est pas tout à fait extraordinaire.
Oui, nous n'avons pas en France cette tradition comparable de la variété. Ça n'a pas du tout le même sens qu'en Italie. Ceci dit, on vous a souvent comparé à l'Arlequin de Bergame. Vous êtes comme l'Arlequin de Bergame.
J'y ressemble surtout à celui-là, à ce qu'il est né, à l'origine. Peut-être que l'amour que j'ai pour la France et pour le théâtre français vient de là, je ne sais pas. Vous savez que Martinelli, c'était le premier Arlequin en France. L'Arlequin est né en France, ce n'était pas né en Italie. Il est arrivé en Italie 60 années après sa naissance. Et il n'a pas eu tout de suite le succès qu'il a eu dans l'Europe, de l'autre, le reste d'Europe. Et je suis lombarde. Je parle, le dialecte à moi, c'est très ressemblable à celui-là de Bergamo. Et on peut dire un dialecte longobard, c'est-à-dire d'ancien longobardie. Et aussi le climat poétique et historique de mon pays, c'est très très proche à celui-là de Bergamo. Les masques même sont très très proches. Peut-être qu'il y a quelque chose d'Arlequin aussi dans l'esprit, c'est pas seulement. J'ai joué Arlequin, c'est toute une saison entière. J'ai joué l'Arlequin original, celui-là de Martinelli et de Dominique Biancolelli.
Vous avez vu dans La Mère coupable, c'était tout à fait autre chose. Enfin, un jeu, pas tragique bien sûr, mais un jeu sérieux. Et de passer de l'un à l'autre, d'un genre à l'autre, est-ce que ça a été facile? Et surtout avec Dario Fo.
De passer d'un genre à l'autre, c'est vrai que j'apprends ici, c'est la première fois que je le fais. Non, je l'avais déjà fait pour passer. J'étais passé d'une farce du Saperlot au pain dur, c'est-à-dire à Claudel. Et ça m'avait beaucoup excité de jouer les deux pièces la même soirée. Et là, c'est l'alternance, c'est vrai que c'est une gymnastique qu'il faut faire, qu'on apprend à faire. Et c'est vrai qu'il y a une jubilation à passer comme ça d'un univers à l'autre. Et Beaumarchais, une langue assez complexe, assez... de passer d'une pièce pleine de contraintes, avec une construction très rigoureuse, au burlesque, à la farce. C'est vrai que c'est une gymnastique qui est très plaisante. Et puis, c'est vraiment très, très différent. Je ne sais pas comment le dire, parce que avec Dario Fo, c'est l'univers de la rigolade comédie. Il parle tout le temps de rigolade. Il essaye de traduire en français les expressions savoureuses italiennes. Et... Bon, la rigolade, ça m'évoque énormément de choses, depuis le lycée, depuis toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est enfant. Enfin, moi que j'ai fait, par exemple, le jeu de travestissement derrière un rideau, je veux dire, ça, je l'ai fait étant gamin. Et puis, c'est très très plaisant de faire du théâtre avec cette rigolade-là.
Et donc, de courir sur scène, de tomber, de faire des chutes, ça rentre donc dans le jeu, et vous prenez plaisir à cela?
Ah ben oui, c'est très très, oui, c'est très physique, c'est très acrobatique, c'est très sportif, et c'est un engagement physique qui est surtout à la Comédie française, qui a une réputation de un peu, enfin je sais pas si je me trompe, je voudrais pas me faire critiquer là-dessus, mais il y a une réputation de sérieux depuis des siècles comme ça, enfin depuis que Molière n'avait pas, mais qui est arrivé petit à petit. Enfin, c'est comme ça que je voyais la comédie française avant. Mais là, je trouve ça formidable qu'on puisse retrouver, renouer avec la farce et avec les origines de Molière.
Dans ces farces de Molière, ce n'est pas tant la parole qui est importante, mais plutôt le geste, le côté visuel, le spectacle. Est-ce que vous vous imaginez, vous, sur scène, en train de faire tout ce que vous êtes capable de faire ?
Je joue, j'ai un parcours à faire avec un certain nombre d'obstacles, avec un certain nombre de rencontres comme ça, et puis il y a une grande partie aléatoire aussi. On peut, puisqu'il y a beaucoup de gags visuels, beaucoup de choses techniques qui interviennent, il y a souvent de l'imprévu, donc c'est aussi il faut jouer avec ça, et ça aussi ça provoque de la jubilation, de l'inattendu, parce qu'on est obligé de on peut pas rentrer dans des rails, voilà, en gros. Ça, c'est... Mais je m'imagine pas du tout ça, c'est une chose qui m'a surprise hier, parce que c'était la générale. Je savais que j'étais à l'aise, mais ce qu'on ressent et ce que les gens ressentent, c'est vraiment assez loin. J'ai vraiment été surpris de voir que les gens avaient une gratitude à mon égard, parce que je les avais fait rire, parce que... Et alors ça, je savais que je les avais fait rire, mais vraiment, le plaisir qu'ils avaient eu, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort que ça.
On va revenir un petit peu sur cet allègement dont vous parliez. Vous savez que certains de nos auteurs classiques fronçaient le sourcil parce que le rire, selon eux, n'était pas ce qu'il fallait pour communiquer avec les autres. Mais vous, je crois qu'au contraire, le rire non seulement communique, mais allège. C'est un peu cette dimension dont vous nous parliez tout à l'heure.
Je crois que le rire, c'est la plus grande... La chose qui détermine l'humain. Les animaux, ils font des squittines, disons. C'est-à-dire, ils émettent des étranges sons pour manifester sa joie. Mais la rigolade, nous sommes le seul à être vivant.
Comment vous traduisez ça en italien, la rigolade ?
La risata.
La risata.
La risata. Il rise et la risata. Nous sommes le seul.
Qu'est-ce que vous voulez ? Je voulais dire que justement, derrière le rire, s'il y a rire, il y a aussi l'envers du rire, toujours. Il y a le côté tragique, non ?
Ah oui ?
Le rire n'est jamais sans réflexion derrière.
Et c'est vrai que la rigolade, la première rigolade de l'enfant, la vraie rigolade, pas le sourire, c'est un rapport à la peur, aux terreurs. Quelque chose qui vient, qui fait peur, et après, l'enfant se rend compte qu'il n'est pas si grave, et alors, il se libère à travers la rigolade. Mais vous savez qu'à l'origine de toutes les tragédies, il y avait la rigolade. C'est pas la tragédie, il ne vient pas de la souffrance, de la peur seulement, etc. Mais c'est lié à la libération de terreur. Pareil à ce discours que je fais des enfants.
Le mot libération est important, parce que dans ce que vous dites et dans votre théâtre, on sent très bien que vous voulez libérer le public.
Oui, et surtout lui faire comprendre, découvrir la dimension imbécile, idiot, animal, dans le sens plus négatif de l'homme. Et toutes les constructions, les pièges, les trappes qu'il y a dans notre structure de vivant, Et tous les absurdes vénérations que nous avons pour certaines choses, pour certaines pensées, certaines façons d'être, qui sont très dangereuses, qu'il faut combattre. Et la rigolade, c'est vraiment une arme incroyable, je pense.
Antoine Vitesse, en parlant des farces, disait que c'était l'envers du tragique. Vous en aviez certainement parlé avec lui?
Oui, nous avons eu des discours, mais je veux dire que c'est l'envers dans une totalité. C'est-à-dire, pas une envers linéaire, on dit en géométrie analytique et prospective. Il y a l'envers dedans le dynamisme qui devient la même chose. Et ça, il faut dire, c'était dans une force dynamique circulaire qui vient l'envers de la farce à tragédie. C'est-à-dire que sans la tragédie, la farce n'existe pas. Et sans la farce, n'existe pas la dimension tragique.
Marcel Bozonnet, vous avez joué le pape dernièrement dans La Vie de Galilée. C'était un personnage digne et aristocrate. Aujourd'hui, vous jouez les paysans dans les farces de Molière que met en scène Dario Fo. Comment vivez-vous cette métamorphose?
Très bien, c'est ce qu'il y a de plus charmant, effectivement, de jouer le pape un soir et effectivement de jouer Valère, c'est-à-dire un paysan borné, violent, auquel je donne un accent bourguignon et évidemment de passer de...
On peut avoir un exemple d'accent bourguignon?
Voilà, on parle comme ça un petit peu, c'est l'accent que je donne à mon personnage. Et bon, donc évidemment c'est, je crois pour toute la troupe, un plaisir immense d'avoir travaillé avec Dario Fo, qui est auteur, metteur en scène et lui-même un grand acteur.
Est-ce qu'il accepte l'accent bourguignon?
Ah oui, 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 parce que il est déjà, il est dans le, il est quand même dans l'écriture aussi, un peu, il est un peu dans le texte, mais il y a d'autres personnages qui sont plus patoisants, celui-là l'est moins, mais m'a semblé, enfin personnellement comme je suis bourguignon d'ailleurs, ça m'aidait de reprendre cet accent que d'origine.
C'est ce qu'on a dû sentir, nous, en tant que spectateurs, quand on voit, vous voit mettre vos grosses chaussures, là, et vos grosses chaussettes. Oui. Mais ces personnages, donc, de Valère et de l'avocat, oui, ce sont donc des personnages importants, bien sûr, à l'intérieur de la farce. Et vous les voyez comment?
Ah, ben, on les voit comme Dario Fo nous les a indiqués, c'est-à-dire que ce sont des compositions très physiques, il demande un grand investissement comme ça avec le corps, et ce sont des compositions joyeuses.
Est-ce qu'il fait travailler un style, Dario Fo? Est-ce qu'il vous demande d'arriver vers une certaine forme d'expression du corps?
Oui, tout à fait. Il a un style très précis parce qu'il y a certaines choses que l'on fait dont il ne veut pas et certaines choses qu'on ne fait pas dont il veut. Mais sa grande qualité, je crois, ça a été de ne pas nous, non plus, de ne pas nous... Il nous a beaucoup montré, mais il ne nous a pas non plus, pas trop montré au point qu'on se soit senti faible par rapport à lui, parce que c'est un grand acteur qui dessine magnifiquement dans l'espace et qui fait de réelles prouesses vocales. Il nous a pas écrasé.
Mais quant à vous, en tant que comédien, Marcel Bozonnet, vous avez eu droit à un dessin?
Oui.
Et on vous a donc dit ce qu'il fallait faire, ou on vous avait déjà dessiné avant que de vous voir?
Mais c'est-à-dire que, oui, quand Dario Fo est arrivé, une partie, je ne dirais pas la totalité de sa mise en scène, était dessinée d'un trait précis et en même temps très, très lyrique, je dirais, d'un trait joyeux. On voyait les personnages comme ça qui gambadaient, les mouvements d'échelle, les positions, par exemple, de tenue de verre, les silhouettes, et certains gags, dans leur évolution d'ailleurs, étaient dessinés, c'est-à-dire, disons, position A, B, C, D, pour arriver au gag final. Et Dario Fo avait sous son bras deux cartons de dessin qui correspondaient aux deux pièces. Et quand on voit les dessins maintenant, eh bien, on a l'impression qu'il les a dessinés d'après sa mise en scène, mais non, il a fait sa mise en scène d'après ses dessins.
Et la coordination, justement, de tous ces dessins, comment s'est-elle fait? Ça a dû être difficile?
Mais c'est-à-dire qu'après, il a fallu se rapprocher, évidemment, trouver les accessoires, l'échelle telle qu'elle était sur le dessin, la scie, les fameux pots de chambre, les verres, l'arbre qui tombe, les grandes robes, enfin, évidemment... Tout le travail a été de se rapprocher en quelque sorte des dessins. Mais ceci dit, il ne passait pas non plus son temps à nous montrer ses dessins. Ils étaient là sur la table, sur sa table de travail, et c'était un outil de travail pour lui. Il ne nous a pas assommé avec la reproduction de ses dessins.
Comment il vous l'a donné? Il vous l'a donné comme ça, parce que vous en avez ici.
Alors là, j'en ai un, parce qu'il a donné à chaque acteur, il a fait pour chaque acteur un dessin qui a trait à un de ses rôles. Moi, je joue dans la deuxième pièce, dans Le médecin volant, un aveugle, enfin, un homme qui devient brusquement aveugle, et en partant avec sa canne, la canne remonte le long d'un corps de femme qui est joué par Céline Samy, et puis alors la canne découvre évidemment la pointe d'un sein, et l'aveugle tapote la pointe du sein et dit « Bonsoir madame ».
Le médecin malgré lui, c'est une comédie-ballet qui avait été jouée déjà quand Molière était connu. Le médecin volant, par contre, c'est un canevas qui procède du jeu à l'italienne et c'est une farce très inspirée par la commedia dell'arte et de l'esprit gaulois, bien sûr, sous ses formes populaires du Moyen-Âge. Vous-même, Dario Fo, vous introduisez vos propres phrases à l'intérieur de ce canevas. Ne s'agit-il donc pas de Molière et de Dario Fo mêlés dans ses œuvres?
Mais j'ai fait un travail très sérieux de reconstruction en allant à lire et voir travail de spion dedans les canovas italiennes de la même époque. J'ai employé aussi des comédiens qui travaillaient dans les mêmes jours, par exemple, que Molière avait fait de la mise en place de Le médecin volant. Biancolelli, on raconte qu'il avait exprès fait la mise en scène de Le médecin volant, Il medico volante, dans le même jour, pour casser le pied à Molière. C'était un blague un peu méchant. Parce que à la fin, Molière, il a dû retirer sa pièce parce qu'il ne marchait pas à l'auteur de Biancolelli. Biancolelli était plus jeune, il était un acrobate incroyable, il avait une force incroyable comme acteur. Je crois que peut-être c'était le clone, la masque la plus grande qui a eu le théâtre de tout le monde. Alors, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. Par exemple, tout le jeu de l'urine, c'est pris de Biancolelli et de Pulcinella napolitain de la même époque.
Les gags que vous employez sont des gags culturels, je dirais, qui font partie de votre patrimoine et votre fond culturel. Et c'est une découverte pour nous, spectateurs français. Mais pour ce qui est donc des comédiens, est-ce qu'il y a eu, au niveau des comédiens du théâtre français, qui sont donc français, est-ce qu'il y a eu tout de même quelques difficultés à pouvoir réorganiser ces lazzi avec le geste?
Non, j'ai dû, à la place, surtout sur ces quelques jeunes, là, ça qui vient plusieurs fois, la lutte contre la gesticulation. Il y a la gestualité et la gesticulation. Alors que la gestualité, c'est quelque chose de rigoureux, chose de très, très géométrique et scientifique. La gestualité mécanique et descriptive, alors là, elle devient de l'amateurialité. C'est pas professionnel. Et là, j'ai dû faire un peu d'efforts, faire comprendre la différence.
Ce que vous précisez, Dario Fo, c'est que le rire, il ne faut pas se tromper, quand on dit rire et même aussi rigolade, c'est quelque chose qui exige énormément de rigueur, en fait, pour le comédien et pour le metteur en scène ou le créateur.
Oui, il faut faire attention de ne pas surpasser, c'est-à-dire aller en avant sur certaines positions. Tu peux bien susciter une rigolade sur certains éléments qui devient destructive au rythme du spectacle, qui après ne te permettent plus de répondre. Le rire, c'est une question mathématique, vraiment, et géométrie. Il y a de tempo, nous disons il tempo, c'est musical. Tu peux pas aller en dehors si tu fais partir quatre rigolades sur un temps, tempo, après tu dois faire une pause. Il faut un équilibre incroyable dedans ça. Et il faut connaître, il faut savoir. Et il n'y a pas de règles, il y a l'expérience, la grande expérience sur ça.
Dans les Molières que vous montez justement, ce rire équilibré, il est aussi dans le mouvement des structures, c'est-à-dire le mouvement du décor. Car ce côté architectural, c'est aussi une architecture de rire d'une certaine façon.
On peut dire que la machinerie de ce théâtre-là, c'est pas décoratif. C'est pas, nous disons, scénographique. Mais ce sont des éléments fondamentaux dedans la structure du théâtre même. C'est-à-dire que ce sont des objets, ce sont des personnages. On ne peut pas jouer sans le décor. Parce que le décor, il est vécu. Sur le décor, il monte, sont praticables. Et tout est praticable. C'est-à-dire il y a l'importance de quelqu'un qui joue à l'auteur de 3 mètres et un autre qui est en bas. Et alors, tout le rapport dimensionnel, c'est pas lié dans la prospective profonde. Les acteurs sont pas au niveau du terrain seulement, mais sont au niveau de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres. Ils jouent jusqu'à 10 mètres d'auteur. Ils s'en vont aussi. C'est-à-dire que tout l'espace est couvert. Et ça, je crois, c'est la différence d'un théâtre d'origine de la comédie dell'art vis-à-vis un théâtre moliéresque mais trahi de la pochade ou du vaudeville comme il est maintenant lorsqu'on fait la farce.
C'est vrai que vous parlez souvent en termes de trahison pour ce qui est du théâtre, enfin vous voulez toujours retrouver les sources, la vérité donc.
Non mais c'est surtout l'implante générale qui est trahie. Molière, on voit bien qu'il joue toujours sur plusieurs étages. Mais c'est pas un jouet sur les étages seulement physique. C'est aussi philosophique d'avoir la dimension. Mais si on se trompe déjà sur la question physique et géométrique de l'espace, on se trompe tout de suite aussi là sur la question de niveau moral.
Richard Fontana, vous avez joué Figaro dans Le mariage de Figaro et il y a quelque temps Hamlet dans Hamlet de Shakespeare. Aujourd'hui, vous interprétez le rôle de Sganarelle à la Comédie française. C'est une chose nouvelle.
Oui, le rôle de Sganarelle est une chose tout à fait nouvelle. Par contre, ce qui n'est pas nouveau, moi, c'est que j'ai toujours alterné les plaisirs. C'est-à-dire que j'ai toujours aussi bien joué la tragédie que la comédie, et bien au contraire, c'est ça qui fait le plaisir de notre métier, c'est de ne pas se cantonner dans un emploi ou dans une chose qui toute votre vie vous poursuit, et après on ne vous emploie plus que pour ces choses-là. Moi, en effet, j'ai joué Hamlet, mais j'ai aussi joué Harlequin déjà, j'ai joué Sosie, et j'ai joué Titus, et j'ai joué Néron, et j'ai joué Figaro, et là, maintenant, je joue en effet Sganarelle, et c'est tout à fait magnifique de jouer ce personnage.
Et de pénétrer dans l'univers de la farce, c'était pour vous un plaisir aussi, quand on sait que vous avez cette saison joué dans Lorenzaccio et que vous faisiez le duc?
Oui, justement, quoi. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que j'ai en effet fait le duc dans Lorenzaccio et puis j'ai fait tout de suite après Greek à la colline, mise en scène par Georges Lavelli, et qui est tout à fait du théâtre contemporain. Je jouais vraiment un jeune homme sorti des bas-fonds de Londres, une sorte de hooligan. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais enfin un petit peu ça. Et là, tout d'un coup, je me retrouve dans Sganarelle avec Dario Fo. Dario Fo, qui est une espèce de mémoire vivante du théâtre. Il sait des choses que nous avons tous oubliées. Et il est venu un peu nous rafraîchir la mémoire aux Français et décaper un peu cette espèce de poussière que tout le 19e siècle avait mis sur ce théâtre-là. Car tout ce qui est, comment dire, scatologique, le corps, a été énormément gommé par le 19e siècle, qui était devenu la fin du 19e siècle, début du 20e, qui est devenu assez prude et assez...
Dans ces deux farces donc de Molière que met en scène Dario Fo, c'est le corps qui est important. Le corps, on voit votre corps se déployer sur la scène, de gauche à droite et de bas en haut. Vous n'en finissez pas. Comment le vivez-vous?
C'est-à-dire que c'est très fatigant, en effet. C'est un rôle épuisant, même. Mais moi, on m'a toujours un peu employé pour ça. C'est-à-dire, on m'a toujours donné, ou rarement autrement, des choses très physiquement difficiles et puis des parcours très longs, comme quand j'ai joué Hamlet 6 heures ou Greek dernièrement à la colline. J'ai toujours eu des parcours comme ça, très difficiles physiquement et mentalement. Alors là, je suis, disons, en pays connu, mais c'est encore autre chose là, c'est-à-dire que c'est un parcours en même temps qui libère le corps, qui libère l'esprit, qui libère la sexualité. Et là, Dario Fo est venu nous le rappeler d'une façon extraordinaire, que ce théâtre-là est un théâtre du corps, de la sexualité, du pipi-caca, et ce que le 19e siècle nous avait fait beaucoup oublier, quoi. Et là, c'est absolument formidable de retrouver cette chose-là. Et le public, d'ailleurs, c'est absolument magnifique. Le public s'y reconnaît et applaudit et rit et s'amuse comme une salle d'enfants, quoi. Comme si les gens retournaient en enfance. Tout d'un coup, on voit 800 sourires absolument béats. C'est une merveille quand on est sur la scène de regarder le public absolument béat et comme des enfants.
Oui, peu importe le texte, finalement, la parole, c'est plutôt le côté visuel, spectaculaire et gestuel qui l'emporte.
Je ne crois pas. C'est-à-dire, je crois que les inventions magnifiques de Dario Fo et des acteurs, d'ailleurs, parce que quand les inventions de Dario Fo ont fait que les acteurs se sont libérés et ont inventé eux-mêmes, et puis Dario Fo là-dessus a inventé des choses, les inventions de mise en scène tout à fait extraordinaires sont là pour servir le texte, vraiment, et le servent admirablement et font comprendre des choses qu'on ne comprenait plus du tout dans ce texte, qu'on ne comprenait vraiment plus. Et par exemple, tout à l'heure, vous parliez du côté machiste de Sganarelle au début de la pièce. Et c'est une chose, on se dit au départ, bon, c'est une scène de ménage, et vous avez vu une chose machiste. Et en effet, c'est ça, et c'est ce dont nous a parlé Dario Fo, que de toute manière, l'homme peut tout faire, peut battre sa femme, et finalement, ça se finit au lit, quoi. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Et finalement, oui, ça se finit au lit, parce que l'homme a tous les droits. C'est ce qu'a voulu montrer aussi Dario Fo. C'est une chose du spectacle, quoi. Mais en même temps, ce qui est formidable, que c'est aussi fait pour faire rire les honnêtes gens, quoi. C'est fait par le conduit du rire et même du fou rire. Et
vous vous sentez proche du personnage de Sganarelle? Enfin, il vous intéresse beaucoup, ce personnage de fou ou de sot?
Oui, c'est un fou, Sganarelle, c'est un diable, et c'est en ça que c'est formidable à jouer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est complètement fou, qui a une folie mais ravageuse et drôle, et qui s'amuse de tout, qui a une envie de tout, de manger, qui a une envie d'argent, qui a une envie de faire l'amour. Dès qu'il voit une belle femme, il faut qu'il lui saute dessus. Il a envie de tout, il a envie de vivre avec une intensité extrême, une envie de rire, une envie de profiter de la vie, et je trouve ça magnifique.
Et travailler avec Dario Fo, cela a été, bien entendu, il a, je suppose, mis d'abord en scène, enfin, ses dessins, comme il le fait d'habitude, et vous vous êtes introduit à l'intérieur de ses dessins. Comment cela s'est-il passé? Puisque vous avez beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité de votre part, vous, Richard Fontana, en tant que comédien. Comment ça s'est-il fait?
Il ne l'a pas, c'est pas comme d'habitude, c'est la première fois qu'il fait ça. C'est la première fois qu'il fait une espèce de bande dessinée avant de faire un spectacle. Parce que je crois qu'il était très impressionné, il voulait énormément travailler sur ses spectacles avant d'arriver. Et bien, en même temps, nous sommes des acteurs et en même temps très humbles, et on a essayé de reproduire ce qu'a demandé Dario Fo. Ça a été en effet très difficile. Au départ, je me suis mis, moi, à inventer qu'au bout d'un certain temps, assez long d'ailleurs, quand j'ai eu compris et déjà intégré ce que voulait Dario Fo, après, par-dessus, moi, j'ai pu, moi, me retrouver et vraiment proposer d'autres choses à Dario, qui d'ailleurs était fou de joie, et à ce moment-là, réinventer d'autres choses. Et finalement, ce spectacle est devenu le mien, et tout est devenu à moi, quoi. Je me suis approprié ce qu'il m'a proposé, et comme Dario Fo s'est approprié ce que je lui ai proposé, quoi. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est de travailler avec lui, de rencontrer l'homme Dario Fo. Moi, ça m'a autant plu que de travailler avec lui, de le rencontrer, de vivre un peu avec lui, comme ça, pendant 2 mois de répétition, de le connaître, d'essayer de le comprendre, de voir quel est cet homme si extraordinaire, malgré tout, qui est comme une figure de Molière, d'ailleurs, parce que c'est un écrivain à la fois haï et adoré. Haï parce qu'il écrit des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, qu'il dénonce énormément de choses dans son pays, et adoré par la même aussi, qu'il est un acteur fabuleux et qu'il est aussi un metteur en scène, comme Molière l'était.
Donc sa place est bien ici, au Théâtre Français.
Ah, tout à fait, je trouve que sa place est tout à fait ici, et là je dois rendre hommage encore à quelqu'un qui m'était très cher et qui m'est toujours très cher, c'est Antoine Vitez, qui nous a fait ce cadeau magnifique d'avoir invité Dario Fo à la Comédie Française.
On voit les comédiens sur la scène qui se donnent un baiser et qui montent vers le ciel. Les spectateurs relèvent la tête, c'est le volume qui a la prééminence sur la scène. Toute cette créativité, toute cette inventivité dont vous faites part, Dario Fo, est-ce que ce n'est pas difficile de la gérer? Comment faites-vous? Les propositions changent d'un soir à l'autre.
Il faut avoir le courage de l'enlever. Lorsque j'invente quelque chose, j'en enlève un autre. L'espace, c'est celui-là. C'est pareil le jeu des échecs. Hein? L'espace, tu peux avoir une invention incroyable, mais il y a une rigueur géométrique dans laquelle tu dois bouger.
Et les comédiens sont là donc pour remplir aussi cet espace.
Pas de remplir seulement, c'est de vivre cet espace. Alors que quelqu'un de cet acteur-là, presque tout, ils ont eu l'intuition fondamentale de jouer chaque soir l'émotion, pas de répéter, pas de retourner, mais de vivre ce qu'ils sont en train de faire.
Et pour ce qui est de Sganarelle, vous l'aviez imaginé donc sur la scène, sautant, sautillant, bousculant, courant. Vous avez pu donc réintroduire Richard Fontana et puis Christian Blanc dans les dessins que vous aviez vous-même imaginés?
Mais oui, j'ai eu la chance de retrouver des gens avec une disponibilité et une passion incroyable, ils ont épousé tout de suite l'idée que j'avais de faire le théâtre. C'était enthousiaste, sans réticence, sans d'avoir de doute Et certaines fois, il poussait plus fort que moi sur la réalisation de certaines scènes qui sont très dangereuses, physiquement parlant, et qui il importe un grand participation.
Pour le costume de Sganarelle, par exemple, vous avez donc choisi la couleur jaune et verte de la compagnie ou de la confrérie des sceaux qui existait au Moyen-Âge. Oui. C'est vous-même qui avez voulu retrouver cela.
Bon, c'était ensemble. On l'a fait ensemble, évidemment. On a décidé ensemble de reprendre ce thème.
C'était avec Claude Lemaire, ça.
Oui, avec Claude Lemaire. Je peux dire une espèce d'imprintur. Mécanique. On peut pas penser de Sganarelle habillé dans des autres couleurs. Ça devient une inutile transformation mécanique idiot, à mon avis.
Un anachronisme. Oui. Et pour ce qui est du médecin, donc Sganarelle transformé en médecin, il est habillé donc d'un voile noir et il monte. Il y a du Louis XIV.
Oui, il y a évidemment la réalité, il y a aussi la couleur de médecin, que c'était le noir en Italie, en France, partout. Le noir, c'était la grande autorité de prêtres, de nobles, et c'est la couleur aussi de la mort.
Que pourrait vous définir un tout petit peu, très prudemment, comme un homme de la Renaissance, mais Renaissance au sens...
Vous l'avez dit,
mais justement, c'est que dans tout ce que vous faites, il y a Renaissance. On sent qu'il y a cette volonté que quelque chose renaisse.
Mais sur le plan de la recherche culturelle, moi, je suis tout à fait un classique. Je suis lié vraiment pieds, mains, yeux, bouche, oreille à la Renaissance. Mes peintres favoris, les écrivains, les comédiens aussi, le théâtre. Je crois d'être, c'est vrai, je suis devenu une espèce de spécialiste du théâtre, de la comédie de l'arte. Mais je suis aussi un trahisseur de ce théâtre-là. Je ne veux pas me placer dedans jusqu'au bout. Je veux aussi le massacrer.
Parce que vous êtes aussi un petit peu anarchiste, tout de même. Il y a un petit côté comme ça, non?
Mais si, même pas dans la côté mécanique. Je suis un anarchiste naturel.
On dit que vous êtes un mime, un auteur, un comédien de varietà, mais aussi un érudit. C'est cela qu'on oublie souvent. Quand on parle avec vous, on entend toute cette culture dont fait référence Dario Fo toujours. Et même si sur la scène, il y a beaucoup de gestes, c'est le gestuel, le visuel qui l'emporte. Tout cela est donc sous-tendu par une culture très profonde.
C'était donc la comédie érudita aussi à l'époque.
Oui. Mais moi, je suis... c'est vrai, je suis un érudit. Mais je suis aussi... Cacciaballe. Je suis un grand menteur. J'invente n'importe quoi. Mais il faut faire attention. Du moment que ma départ, c'est toujours sur des choses réelles, il arrive que j'invente des choses qui en vérité sont réelles, qui on peut bien retrouver exactement. L'autre jour, j'avais raconté qu'il y avait une réplique. Les comédiens étaient un peu étonnés de la vouloir employer. Alors je dis attention, c'est de Rabelais, c'est pas une blague, ça. Hein? C'était pas vrai, c'était pas de Rabelais, j'avais inventé complètement. Mais l'autre jour, j'étais avec Tasca, Madame Tasca, professeur, et deux autres professeurs, et en parlant, il est sorti que la grande quantité de blagues, de répliques qu'il y a dans Le Médecin malgré lui, sont de Rabelais. Alors je n'avais pas inventé, je croyais d'avoir inventé. C'était vrai. Ça, c'était une intuition que j'avais à cause de la connaissance que j'ai de Rabelais.
Mais c'est parce que le mensonge du théâtre a toujours rejoint la réalité.
Oui, peut-être. Mais ce que c'était beau sur ce texte, exprès, je ne l'ai pas dit, pas. Il commence avec une chanson italienne, par exemple. Et c'est de Molière. Mais qui connaît cette origine de la chanson de Molière? Ils sont plusieurs chansons. Il y a deux chansons. Ils sont toutes les deux de Molière. Et Molière connaissait bien, il y avait évidemment des Italiens chez lui qui lui donnaient la chanson. Je ne crois pas qu'il parlait tellement bien l'italien, mais il aimait l'Italie à cause qu'il a ses parents directs de théâtre. C'était des Italiens, c'est-à-dire Fiorillo, c'était son maître, vraiment, son père aussi, si vous voulez. C'est ça. Alors que il y a dedans plusieurs choses qui ressemblent fausses, inventées, et qui sont parfaites, qui sont dedans la culture de Molière, qui sont dedans la grande tradition italienne sur laquelle Molière a implanté son travail. Et alors, j'attends de voir les imbéciles cultivés qui se fait déplacer de la piège.
On dit que vous êtes aussi attiré par le cinéma. Alors comment concevez-vous le cinéma face au théâtre ou tout seul, comme vous le voulez?
Moi, je fais aussi le cinéma, mais il y a quelque chose qui m'empêche de faire le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a quelques divinités théâtrales qui font des choses incroyables pour m'empêcher d'arriver à avoir succès dans le cinéma.
Un crochet qui tombe des cintres, peut-être. Hein,
oui, c'est ça. Oui. Quelque chose qui ne me permette pas de faire le cinéma. Chaque fois que je cherche de faire le cinéma, c'est un échec terrible au moment. Et après, il devient un succès, mais alors, il s'est déjà passé. Par exemple, Los Vitatl est devenu un succès incroyable 15 années après que je l'avais fait. Maintenant, je fais un film avec une amie et il n'est pas passé, il n'est pas sorti, il n'est pas... il verra, je suis sûr qu'environ 4 ou 5 années, il vient d'être connu
Il marche, cinéma comique. Hein. C'est un cinéma comique.
Oui, cinéma comique et poétique hein, dans le même temps.
Donc il est en réserve, nous le verrons certainement. Mais vous préférez peut-être le théâtre finalement?
À la fin, oui. Il y a que... Surtout parce que le théâtre me donne la possibilité de reconstruire, de revoir, de vivre, de réécrire tout et d'inventer un nouveau tout.
Je ne trouvais pas qu'il y ait quelque chose de très amusant à voir monter justement deux Molières, parce que Molière, comme vous l'avez dit, Molière, son imagination, sa fantaisie, il l'a un peu puisé dans l'Italie. Et puis on l'a un peu oublié, ce premier Molière-là, ce n'est pas celui qu'on joue généralement. Or aujourd'hui, il revient au fond à un Italien de redonner cette fraîcheur.
Peut-être que c'est parce que, au commencement, le premier Molière, c'est-à-dire le premier qui lui l'a joué, c'était un texte italien, tout à fait italien. Il a pris aussi des répliques de textes italiens. Je connais par cœur le texte original, que c'est de 50 ans avant la naissance de Molière même. Et il y a dedans toute la machinerie de originale. J'ai choisi ça exprès, parce que le texte plus italien de Molière. Et j'ai choisi ensemble, à vitesse, le dernier Sganarelle, la naissance et la fin. Et vous savez que dans la fin, il y a une métamorphose. Je l'ai dit avant, il ne retourne plus. C'est la dernière fois...
On ne le retrouve plus sur scène.
C'est ça. J'ai commencé alors. La naissance et la mort.
Et pour nous, en France, Sganarelle, c'est un mythe. On en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas sur la scène. Et c'est un bienfait que de le revoir, là, dans les deux pièces.
Et c'est beau aussi que lui, il a choisi une Zanni minore. C'est-à-dire que Sganarelle, qui en italien est Sganarello, qui veut dire sgagnare, ça veut dire mordre avec intensité dans la rigolade et manger beaucoup et parler. Beaucoup, aussi dans l'assurde, dans le n'importe quoi, pas le silence, jamais être en silence. Et c'est étrange que lui, il a pris ce petit idiot mineur qui entre seulement, c'était, nous disons, un mamo, pas un masque complète, Et lui, il a donné une grande valeur. C'est pareil que quelqu'un il a pris un enfant qui est de personne et il a lui donné une dignité, une père, une mère, une histoire. C'est beau cette histoire. C'est-à-dire, il n'a pas pris quelqu'un qui était déjà fameux, une masque qui était rien.
Et dans Mystère Bouffe, vous aviez imaginé une rencontre tout à fait illusoire entre Molière et Scapin. Oui. Et Scapin apprenait à Molière comment jouer un rôle. C'était original, cela aussi. Scapino,
c'était vraiment une masque italienne. Et ça veut dire s'en aller. Scappare, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur toujours, qui n'a pas de courage, la manque totale de courage. Et ça c'est aussi beau, c'est-à-dire il a choisi lui Molière, il a choisi deux masques, une qui est à la fin pas vide, quelque chose qui quelqu'un qui n'a pas de tout de qui cherche de sortir de la peur, de la violence, de tout. Et l'autre qui est quelqu'un qui a la faim. La femme totale, qui est toujours un
Sganarelle.
Sganarelle.
Merci donc aux comédiens du français, merci bien sûr à Dario Fo qui, comme Scapino, nous a quittés maintenant. Mais nous souhaitons que la Comédie française ait un jour l'audace de monter une pièce de Dario Fo. Et naturellement, il faut ne pas oublier ceux qui ont réalisé l'émission, c'est-à-dire Daniel Fino et au pupitre technique Zindine Zedawi.
Grande, mi sono buttato, salvo, non morirò negato, morirò marcito.
Guardo dentro in sta caverna scura.
Les mardis du théâtre vous étaient proposés par Gérard-Henri Durand.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin 1990.